الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاء الإسلام. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour nous rassembler quelques instants afin d'étudier un hadith qui parle de l'au-delà, qui parle d'une situation qui sera vécue par chaque créature d'Allah Azza wa Jal. Et cette situation, c'est la résurrection. Il n'y a pas un être humain qui vient sur terre qui ne connaîtra pas un jour la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Et chaque personne qui goûte à la mort devra vivre un jour la résurrection, yawm al-hashr. Et il n'y a pas 50 façons d'être ressuscité, si on peut se permettre cette expression. Soit on est ressuscité parmi les personnes qui sont honorées par Allah Azza wa Jal, soit on est ressuscité parmi les personnes qui se sont éloignées d'Allah dans ce monde et qui seront donc éloignées d'Allah le jour de la résurrection, qu'Allah nous protège. Et l'objectif de ces interventions, c'est vraiment d'arriver à un discours réaliste. C'est pas juste de parler de choses entre guillemets abstraites, parce qu'il n'y a rien d'abstrait dans la religion. L'objectif, c'est de réaliser qu'on a un parcours de ce monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, quel que soit notre travail, qu'on soit étudiant, qu'on soit de la vie active, qu'on soit célibataire, marié, papa, grand-père, peu importe. Quelle que soit notre situation, nous avons un parcours de ce monde. Allah Azza wa Jal nous a donné la vie et Allah nous a donné la foi. Si on écoute ce discours, si on est interpellé par ce hadith, c'est qu'on a la foi et c'est un bienfait de la part d'Allah. Et Allah nous a accordé un laps de temps. Chaque être humain qui vient sur terre est dans ce monde pour un nombre de jours limité. Et lorsque ces jours seront écoulés, on retourne vers Allah Azza wa Jal. Maintenant, tout se décidera là-haut en fonction de la façon que nous aurons vécu dans ce monde. Et là aussi, on a deux catégories de personnes. On a trois catégories. Dans un verset du Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle « ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ » Ces trois catégories de personnes sont les suivantes. Premièrement, on va commencer par le pire, qu'Allah nous protège. Dans les mots, les nafsis, la personne qui se fait du tort. Comment est-ce qu'un homme se fait du tort? C'est pas qu'il est sadomasochiste ou des trucs comme ça. Non, non, ça c'est, on va laisser ça pour les films. Ça veut dire quoi se faire du tort? C'est suivre ses pulsions, suivre ses passions et ses plaisirs. Ton nafs. Inna nafs ala ammaratun bisou. Chaque être humain est influencé par Shaytan, Iblis, les waswasa, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Et on est influencé également par le nafs, par les passions qui nous poussent à accomplir le mal. Donc, la pire des catégories qu'Allah nous protège, c'est celui qui, à chaque fois qu'il aura envie de regarder quelque chose, d'écouter quelque chose, de manger quelque chose, de toucher quelque chose, et ainsi de suite, il va suivre ce que son, entre guillemets, ce qu'on dit, ce que son cœur lui dit. Mais c'est pas son cœur qui lui dit. C'est son nafs, c'est son ego, c'est ses passions qui le poussent vers certaines choses. Ça, c'est la pire des situations. Et que lorsqu'on a à choisir entre l'obéissance d'Allah, les limites qu'Allah nous a fixées et le plaisir immédiat. Parce que dans chaque péché, on le répète à chaque fois, il y a un madja, il y a un plaisir immédiat. Ben, le plus malheureux, c'est celui qui va à chaque fois rechercher le plaisir immédiat et qui va mettre de côté l'obéissance d'Allah et qui va oublier qu'Allah est au-dessus de lui et qui va oublier qu'Allah le voit, qu'Allah l'observe, qu'Allah l'entend et qu'Allah sait ce qu'il y a de son cœur. Ça, c'est la pire des personnes. Ensuite, on a muqtasid. Muqtasid, c'est entre les deux, en ce sens, traduction approximative. C'est la personne qui accomplit de bonnes actions mais qui parfois fait des péchés. Et quand il fait des péchés, il essaie de se rattraper, il refait des bonnes actions, il demande tawbah. Mais des fois, il rechute. Et il se relève, et il demande pardon. Et parfois, il refait les erreurs. Mais ça, c'est entre les deux. Après, il y a minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Ça, c'est le summum de la foi. Quand Allah nous accorde cette qualité, ça, c'est le paroxysme, ça, c'est le plus haut niveau de la foi. C'est les personnes qui, à chaque instant de leur vie,
ils font preuve de piété. Et c'est quoi la piété? Très clairement, la piété, quand nous, on a une conception de la piété qui parfois est biaisée. Pour nous, la piété, c'est celui qui a décidé de faire itikaf toute sa vie. Celui qui ne travaille pas, celui qui ne se marie pas, qui jeûne tout le temps et qui passe ses nuits dans la masjid, dans itikaf, faisant tahajjud, ça c'est l'homme pieux. On va dire que certes, si quelqu'un arrivait à ce niveau, waouh, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas ce qu'Allah attend de nous. Ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué comme exemple. Le prophète était marié, il avait des enfants, il avait une vie. Le prophète avait une vie sociale également. Il avait des amis, des sahaba bien sûr, mais il avait des fréquentations, il rendait visite aux gens, il recevait des gens, il s'ouvrait aux gens, il était parfois apprécié. Il y a des fois où il connaissait des difficultés, il était parfois malmené, parfois on l'insultait, il faisait preuve de patience. Et c'est ce que notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, que le bon, le mu'min, vraiment, c'est celui qui vit avec les gens et qui fait preuve de patience dans ses relations, dans ses fréquentations avec les gens. Ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous en termes de piété, justement, c'est pas le fait de se retirer de la vie. Parce que se retirer de la vie, c'est contre-productif. Si on dit à un jeune, tu veux devenir pieux, ne travaille pas, reste dans la masjid. Il pense qu'il a besoin de se marier, il a des besoins humains. Il a besoin de travailler, il a besoin de s'émanciper, il veut avancer dans la vie, il aimerait avoir des enfants, il aimerait avoir une voiture, il aimerait avoir une maison. Bref, il veut vivre. Et est-ce que l'islam nous empêche de vivre? Du tout. Est-ce que l'islam se restreint totalement au strict minimum? Non. Si tu as la possibilité d'avancer, d'avoir une carrière brillante, d'avoir, mashallah, des bienfaits, alhamdulillah, tant que ça reste dans le cadre du licite. Et tant que ce que tu vas faire ne te pousse pas vers quelque chose qui est interdit, tant que tu ne franchis pas la limite. Donc, l'homme pieux, c'est celui qui, dans son cœur, a le muraqabatullah, la pensée d'Allah permanente. Et ça, c'est la taqwa. Dans toutes les situations de la vie, tu te rappelles qu'Allah est avec toi, qu'Allah t'observe, qu'Allah t'entend, Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur, Allah sait exactement ce que tu as l'intention de faire. Mais celui qui a développé cette qualité, mashallah, ça, c'est quelqu'un qui va avancer. C'est lui qui fera partie des personnes qui seront les plus pieuses de ce dunya, qu'Allah nous accorde cette qualité. Et celui qui a vécu dans ce surat al-mustaqim, avec cette piété, le jour de la résurrection, sans le moindre doute, ces personnes-là auront les plus hauts rangs, le jour de mahshar, le jour de la résurrection. Et quel est le plus haut rang qu'un homme peut avoir le jour de la résurrection? C'est lorsque les gens sont éprouvés par le soleil de l'au-delà, Allah Azza wa Jal t'appelle pour venir sous l'ombre de son trône, c'est-à-dire être un privilégié le jour de Qiyam. Dans ce monde, tout le monde aime être privilégié, être pistonné. On aimerait connaître quelqu'un qui est bien placé, qui nous donne des facilités, qui nous permet de faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire. Bref, dans la vie de ce dunia, on aimerait tous avoir le contact au conseil général, un au conseil régional, un à la mairie, un à la préfecture, un à la CAF, un à EDF, un à Veolia, ainsi de suite. Si tu as un copain partout bien placé, tu te dis qu'à moi, personne ne touche moi. Mais là, on l'est, moi. Il faisait quoi que ce soit, mais il lève le téléphone. Enfin, il dit, puis lève le téléphone, etc. Mais passe un coup de fil direct ou un WhatsApp, mon problème est réglé. C'est-à-dire, dans ce monde, l'homme a compris l'intérêt d'avoir des relations entre guillemets. Allah Moussa'an, ça nous mène où? Tout ça, ça tourne. C'est une roue du dunya qui tourne. Et si on a intégré cette notion, on doit comprendre que le jour de Qiyama, avoir une relation spéciale avec Allah Azza wa Jal, ça c'est le rêve. C'est le rêve parce que là il s'agit de ton éternité. Là il s'agit des punitions du Akhirah. Et donc, il y a des personnes qui le jour de la résurrection seront invitées pour être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et le hadith précise, يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ où aucune possibilité de trouver de l'ombre ou du repos ou une source de protection, de refuge, si ce n'est sous l'ombre d'Allah, du trône d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'attestation du prophète alayhi salatu wa salam, révélée par Allah. Aucune possibilité de trouver raha, une protection contre les difficultés de l'au-delà, si ce n'est être invité sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et on a vu les 6 premières catégories, et on avait complété la 6e avant, on va dire, les vacances. C'est cette personne qui donne le mon avec une telle sincérité que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et quelle était la qualité essentielle de cette action? C'est la sincérité. C'est le fait de cacher une bonne action. C'est le fait d'accomplir une bonne action et ne pas montrer aux gens, ne pas s'en vanter. Et même si l'action, elle n'est pas exceptionnelle sur le plan quantitatif, n'as pas donné 1000 euros ou 3000 euros, ainsi de suite. Tu as donné un peu, d'accord, en fonction de tes moyens, mais tu l'as fait pour Allah, apparemment pour Allah, avec sincérité. Et comme il dit, vous n'avez pas fait ta page. Tu ne vas pas dire aux gens que j'ai fait ça, à telle personne, difficulté. À moi, il y a des gens, parfois, ils font de bonnes œuvres, mais ils bradent leurs bonnes actions, leur sadaqa. Ils disent, hein, Wabougla, là, ça a été dans difficulté, à moi, là, tu es allé dans le pétrin, là. Parti voir la CAF m'a fait gagner la location, m'a fait gagner le logement, qui est là aujourd'hui, là, en l'air et tout. À moi, là, il y a, ça sert à quoi? Tu as fait quelque chose de magnifique, peu de gens auraient fait, mais le fait de l'exposer, khalas, c'est terminé. C'est comme si que tu as partagé l'action entre toi et la personne que tu essaies d'impressionner. Et Allah Azza wa Jal aghna. Allah est le riche. Et quand on dit qu'Allah est riche, c'est qu'il n'a besoin de personne. Mais il n'a besoin d'aucun associé non plus dans les bonnes intentions. Dans les intentions. Et que si quelqu'un accomplit une bonne action pour Allah, et ensuite, également pour montrer aux gens, taraktuhu wa shirka, je l'abandonne ainsi que les associés, parce que ces personnes qu'on a associées à Allah dans l'intention, c'est considéré comme un petit shirk, l'ostentation, al-riya. Donc, la personne qui donne le mal avec cette sincérité, peut-être ne donne pas énormément, ça peut être 1 euro, 2 euros, hein, et ainsi de suite, mais on le fait avec cœur, avec l'esprit de sacrifice, on le fait pour Allah et on cache la bonne action. Qu'Allah nous accorde cette qualité, on avait dit que c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment avec grande facilité, quel que soit notre situation financière. On a vu l'histoire de ce grand savant, bon, c'est la quatrième fois qu'on le dit, quand il allait à la masjid, il n'allait jamais à la masjid pour la prière de Fajr sans avoir dans sa poche quelque chose à donner à un pauvre, l'aumône. Soit c'était de l'argent, des dirhams ou dinar, et s'il n'avait plus rien pour lui-même, il amenait un petit truc à manger. Une fois, il avait amené quoi? Des oignons. Pas vagard seulement, quand même pas, faut pas exagérer. Même pas oignons frites, un salut de linge. Il a amené des oignons, et c'était un grand savant. On a dit que cher, ça, dans tes vêtements, ça va sentir, ça va te salir. Il a dit que je n'ai rien trouvé d'autre chez moi pour donner, si ce n'est que ces quelques oignons. Et donc ça, j'ai espoir que c'est ma sadaqa du jour. Et pourquoi il faut avoir une sadaqa du jour, Nabil? Ça, c'est le hadith. Ça, c'est le hadith qui nous interpelle. Il y a un ange tous les matins qui fait dua, ya Allah, celui qui donne, accorde-lui plus. Il y a un autre ange qui dit, ya Allah, celui qui se retient, qui ne donne pas, qui fait preuve d'avarice, oh Allah, ne lui donne pas, retiens. C'est-à-dire que la personne qui ne donne pas, il n'a pas confiance en Allah. La personne qui donne, il sait qu'Allah va lui donner encore plus, et quand il donne, ça c'est pour le akhira, il retrouve là-haut. Donc Allah nous accorde cette qualité. La septième catégorie, la dernière, c'est pas la dernière, parce qu'il y a d'autres catégories, mais le hadith al-bab, le hadith le plus mashhou, le plus connu concernant cette situation de l'au-delà, c'est celle qui cite les sept catégories. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui va peut-être nous occuper pendant deux ou trois mardi, inshallah, rajulun dhakara Allah khalian fafadat 'aynahu, un homme qui pense à Allah azza wa jal khalian. Khalian, ça veut dire quoi? Seul. Comment? De l'obscurité? Constamment, c'est pas mal, mais là on parle de solitude. Après, il y a une autre sifa, une autre qualité qui intervient. Premièrement, khalian, il est seul. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ostentation. C'est-à-dire que personne ne sait qu'est-ce qu'il est en train de faire comme bonne action. Fafadat'ina. La deuxième qualité, ce qui distingue cette personne, c'est qu'en pensant à Allah Azza wa Jal, il se met à pleurer. Et pourquoi il se met à pleurer? On va voir les trois raisons qui doivent nous pousser à pleurer quand on fait dua, quand on a un istighfar, quand on lit le Coran, quand on fait le dhikr d'une façon générale. Seul et la solitude, c'est très important. Autant on a parlé tout à l'heure de la vie sociale, l'implication, les échanges, sans le moindre doute. C'est-à-dire, le matin, vit comme, mashallah, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, avec, bien sûr, ses restrictions, ses limites. Mais soit, on va dire, une personne active, soit un maillon fort de la société. Participe à la vie de la cité, comme les Grecs disaient. Participe. Mais arrivé le soir, soit un ruhban al-layl, soit un cavalier seul. Un cavalier qui est seul la nuit, mais qui avance, qui se bat, mais qui se bat, qui lutte contre son nafs, qui lutte contre son sommeil, qui lutte contre toutes les choses. C'est une personne qui va consacrer son temps à de bonnes œuvres, alors qu'en même temps, il y a des gens qui sont dans le péché. Imaginez ce jeune qui, un samedi soir, sharif, un samedi soir où ses amis sont partis. J'ai dit au Moulin Rouge, non. Je suis parti un peu loin là. Ils sont partis à la villa, ils sont partis. Il y a une autre boîte là, c'est un nom 936, je sais pas quoi. Je savais même pas. Mes élèves qui m'ont appris. Il m'a dit, pour ça, vous connaissez pas, c'est quoi le. C'est un chiffre, frère. Tu connais Nabil? Abdurrahman, il connaît? Mashallah, qu'Allah vous protège. J'espère que personne ne sait. Et donc, quand il y en a qui vont s'amuser, entre guillemets, s'amuser, qui vont se laisser piéger par Shaitan, ben ce jeune-là, il se dit que moi, je mets pas les pieds dans une boîte de nuit. Moi, je vais pas faire l'adultère, je vais pas boire, je vais pas danser, je vais pas vers le haram. Et la personne essaie de faire ce qu'il peut. Et imaginez que dans la nuit, il se réveille, il fait deux rakats de tahajjud avec un esprit de sacrifice. Et là, il fait doua. Vous savez, ce sacrifice qu'il va faire là, il venait de recevoir une invitation de ses amis, il n'y est pas allé. Il a crasse aux bananes, il a crasse son nafs, comme il dit. Il s'est retenu. Il a lutté contre son nafs, il reste chez lui, il avait envie. Parce que ce qui distingue également les personnes qui sont sous l'ombre du trône d'Allah, c'est un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah. Pourquoi un jeune? Parce que c'est quand on est jeune, on a envie de faire plein de choses. Quand on est jeune, on a les pulsions, on a les pulsions atteignent vraiment le summum quand on est jeune. Et dans cette situation, tu pèses le pour et le contre. Le pour, c'est l'obéissance d'Allah, et le contre, c'est ce que ton nafs te demande et le plaisir immédiat. Et la personne fait le bon choix. Donc, il a envie d'y aller, mais il se retient. C'est pas parce qu'il n'y va pas parce qu'il est coincé. C'est pas il n'y va pas parce que quand le videur voit son tête, il dit désolé, c'est pas possible. C'est pas ça. C'est qu'il peut y aller sans problème. Mais il éprouve l'amour, il se ressent l'amour d'Allah et la crainte d'Allah et al-haya. Voilà les trois raisons qui nous poussent à pleurer. La honte de désobéir à Allah. La honte qu'Allah me voit dans une situation où je suis en train de le désobéir. Et donc cette personne, imaginez que ce soir-là, il se réveille pour qiyamul layl, tahajjud, il fait deux rak'at, il demande dua. Il est possible que tout ce qu'il demande soit accepté. S'il demande la santé, s'il demande la protection, s'il demande le mariage, s'il demande une vie de famille épanouie, un travail, et ainsi de suite, la protection contre toute chose mauvaise, doua pour ses parents, et ainsi de suite, il est possible que tout soit accepté. Parce que derrière le sacrifice, il y a quelque chose d'énorme, il y a des récompenses exceptionnelles. Donc, ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا et il pense à Allah, أي بِقَلْبِهِ أو بِلِسَانِ la pensée d'Allah, soit par le dhikr qu'on connaît, et on verra les catégories de dhikr. Ça, il y a le temps, inshallah. Et également, il peut penser à Allah dans son cœur. Parce qu'on peut penser à Allah dans son cœur et pleurer aussi. On peut penser à Allah en faisant le vrai dhikr et pleurer. Les deux, c'est possible. Ça veut dire que le plus important, c'est que le cœur soit connecté avec Allah Azza wa Jal. Et que dans ton cœur, à ce moment, il n'y a rien d'autre qu'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu as uniquement Allah dans ton cœur et rien, aucune pensée mondaine, rien qui te distrait, rien qui ne t'attire vers autre chose. Tu te consacres pour Allah. Tu t'es réveillé pour Allah. Tu as fait les ablutions pour Allah. Tu as mis tes vêtements propres pour Allah. Tu t'es parfumé pour lui. Tu as fait deux raka'at de salat pour lui. Et là, tu es en train de penser à ton Seigneur. C'est une relation presque intime entre toi et Allah Azza wa Jal. Et là, khalian. Donc, idéalement, quand on dit khalian, que personne ne te voit, même pas tes proches. Bref, certes, il y a le hadith dans lequel il stipulait qu'Allah aime ce mari ou cette femme qui se réveille par la prière de la nuit et réveille son conjoint en mettant un petit peu d'eau. D'accord? En faisant couler un petit peu d'eau et tout pour le réveiller. D'accord? Si on peut faire l'adoration avec l'épouse, mashallah, nourun ala nour. Mais je veux dire que rien de plus. Et il est mieux de le faire chez soi à la maison que de le faire à la masjid. Salat Fajr, oui, mais tahajjud à la maison. C'est-à-dire, ikhfa, cacher l'action. D'accord? Fafadat aïna, et ses yeux se mettent à couler. Et donc, qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, un croyant, arrive à pleurer? Qu'est-ce qui doit nous motiver pour pleurer? C'est-à-dire, dans quel état je dois me mettre? Quels sont les objectifs spirituels pour que je ressente vraiment cette émotion? Premièrement, c'est khashyatullah, la crainte d'Allah. Ressens la grandeur d'Allah. Ressens que tu es écrasé par la grandeur de ton Seigneur. Et cela nécessite l'étude du nom d'Allah, al-azim. Qu'Allah est grand, qu'Allah est magnifique. Qu'Allah est, subhanallah, plus grand que tout ce qu'on peut concevoir, imaginer. Deuxièmement, al-haya min Allah. Haya ala dhunubik. Tu dois ressentir la gêne, la honte, en te rappelant de ce que tu as accompli cette journée comme péché, ou les péchés que tu as accomplis récemment. et que tu te présentes devant Allah, mais Allah Akbar, tu as envie presque de te cacher. Comment est-ce que je peux me présenter devant Allah avec autant de péchés? Mais en même temps, il y a une reconnaissance que malgré ça, Allah n'a pas regardé tout ce que je traîne derrière moi comme péché, même les péchés majeurs. Malgré ça, Allah m'a accepté pour faire la prosternation. Donc, il y a une reconnaissance. Et il y a ash-shawq ila liqa'i li shiddati hubbillah. Et troisième chose qu'on ressent, on doit ressentir ce qui nous amène à pleurer. C'est-à-dire, on doit rechercher les sources de motivation pour pleurer en faisant le dhikrullah. C'est l'envie de rencontrer Allah, ressentir l'amour d'Allah. Il ne faut pas uniquement ressentir la crainte d'Allah. Autrement, ça, je ne dis pas que c'est négatif, mais ça peut être perçu comme étant négatif. Est-ce que le croyant, il vit avec la peur? Si je fais quelque chose, Allah va me punir, va envoyer un adab sur moi. Ça ne se passe pas comme ça. C'est entre la crainte et l'amour. Ressentir l'amour qu'on a pour Allah Azza wa Jal et l'envie de le rencontrer. L'envie d'être enfin, un jour, délivré de ce monde et de ses injustices et de ses difficultés et de ses épreuves pour retourner vers Allah Azza wa Jal, où Allah nous rétribuera pour chaque instant de patience, de persévérance, pour chaque salat accompli, pour chaque rosa, chaque saum, chaque ayah du Coran qu'on a lu. Quand on dit alif lam mim, c'est pas une lettre, alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. C'est un hadith qu'on entend qu'on connaît presque par cœur. Et combien de fois on a lu le Coran, combien de versets, mais c'est là-haut qu'on retrouve. Je donne un exemple pour tilawat al-Qur'an, qu'on retrouve les récompenses de chaque lettre du Qur'an qu'on a lu. C'est ça, al-hubb, al-shawq liqa'illah, l'envie de retrouver Allah, de retrouver les récompenses qu'il nous a données et qu'Allah nous rétribue pour la patience face au péché. Chaque fois qu'on avait envie de faire quelque chose de mal, on s'est contrôlé, on a résisté, on a lutté contre notre nafs pour Allah, ben voilà la récompense auprès d'Allah maintenant pour cette vie de restriction spirituelle. Donc, voilà cette personne qui est sous l'ombre du trône d'Allah parce qu'il se réveillait la nuit et il faisait le dhikrullah seul dans l'obscurité et il pensait à son Seigneur. Il se rappelait de comment il aime Allah. Il se rappelle des péchés. Il a honte d'Allah. Et il ressent la crainte d'Allah et il se met à pleurer. Ikhwani fillah, les ulama rahimahumullah ont donné beaucoup d'explications, de commentaires sur l'importance du dhikrullah. Parmi les points qu'on retient, que la pensée d'Allah, il y a différentes métaphores, différents exemples, c'est le ravitaillement du cœur du croyant. Il est impossible, Abdurrahman, il est impossible qu'un musulman passe une journée sans se ressourcer spirituellement. Et l'accomplissement des prières n'est pas suffisant. Ça, c'est notre devoir envers Allah. Mais qu'est-ce qui va donner la vie à ta salat? Qu'est-ce qui te permettra de trouver la concentration, la dévotion dans la salat? C'est tout ce que tu vas cumuler comme force de iman par le biais du zikrullah. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. L'apaisement du cœur, mais c'est également le ravitaillement, c'est ce qui renforce ton cœur. Deuxièmement, c'est l'action par laquelle le croyant se ressource. Ça rejoint ce qu'on a dit sur ravitailler. On a besoin de se ressourcer régulièrement et cela transite par le dhikrullah qui est la bonne action la plus simple, la plus accessible, qui ne nécessite aucune condition. Même pas être en état de pureté, même pas être dans une position spéciale. On peut faire le dhikrullah assis, allongé, dans notre lit. Une personne qui n'a pas le wuzu peut faire le dhikrullah. Une femme qui n'est pas en état de pureté peut faire le dhikrullah. Mis à part la lecture du Coran, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une action qui est accessible à n'importe quel instant. Également, lorsque le croyant est éprouvé, il trouve refuge dans la pensée d'Allah. Il y a une magnifique traduction. C'est un jardin, en parlant du dhikr, aux mille fleurs et parfums, où le croyant trouve son bonheur et trouve les couleurs qui vont redonner la vie à son cœur. Dans les moments de ténèbres, quand on passe une phase très difficile dans notre vie, où tout va mal, on a l'impression que je vis un cauchemar. Rien de ce que je projette ne réussit. Et tout ce que j'essaie de faire, ça rate, ça ne va pas du tout. Trouve le réconfort de la parole d'Allah, de le dhikrullah. Ne pense pas que ce sont tes amis qui vont t'apporter du réconfort. Ils vont te dire quoi, une parole d'encouragement une fois ou deux fois. Tu vas sortir avec eux, aller au restaurant, manger une glace une fois, deux fois. Mais ce n'est pas eux qui vont régler tes problèmes. Ce n'est pas eux qui vont te faire trouver un travail ou une épouse ou trouver la santé, ainsi de suite. Ce n'est pas la pensée d'Allah. Par le dua. Et le dua fait partie des adhkars également. Et toutes ces actions qu'on a besoin de faire avec un engagement spirituel, comme la salat et le dua. La salat et le dua, également la lecture du Coran, ce ne sont pas des actions qu'on peut improviser. Ça nécessite une préparation spirituelle. Ça nécessite une force, un socle spirituel qui te permettra de les accomplir correctement, posément, comme les sahaba l'accomplissaient. Et c'est là, et ça, c'est par le dhikrullah. Quelqu'un qui fait beaucoup de dhikr, sa lecture du Coran sera différente. Sa salat, c'est le grand oral, comme on avait expliqué le Fadriyal Salihin. Il est devant Allah Azza wa Jal, et là, tous, comment il a pensé à Allah? Il a dû lire 1000 fois depuis ce matin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il a dû lire 500 fois depuis ce matin. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a dû lire 100 fois. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilay. Et d'autres dhikr, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Son cœur est rempli d'amour pour Allah. Et lorsqu'il se présente devant Allah de la prière, il va trouver une dévotion, une implication, une concentration qui est exceptionnelle. Également pour la lecture du Coran, comme on a dit, on trouvera vraiment la saveur de la lecture du Coran si notre dhikr est fait correctement, abondamment et avec implication. Et par la suite, on verra c'est quoi le adab, les règles d'éthique pour le dhikr. Le dhikr, ce n'est pas juste prendre le tasbih, faire subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est pas ça, fait le dhikr. Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit une fois, ce que les certains savants disent? Il paraît même que soit c'est un mawkouf, ça vient de sahaba, ou ça remonte presque au sahaba. Il dit que quand quelqu'un fait istighfar, astaghfirullah, 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 comme ça, sans vraiment y penser, il le fait de façon machinale, il dit que هذا الاستغفار يحتاج الى استغفار. Ce istighfar nécessite un istighfar. Parce que tu as pensé à ton Seigneur, tu as pensé à Allah, mais de façon insouciante. Tu as dit astaghfirullah, mais sans vraiment le faire avec concentration, sans vraiment réaliser l'importance de ce que tu es en train de faire. Donc, ikhwan fillah, je sais pas ce qu'on était en train de dire juste avant ça, khair, inshallah, c'est le dhikrullah qui nous permettra donc de constituer ce socle spirituel pour donner une ampleur également à nos a'mal salihah. D'autres savants, là on parle de poètes, et quand on parle de poètes, il y a un point que parfois... Je pense qu'il est nécessaire d'éclaircir. Très souvent, quand on parle de dhikr, les gens associent le dhikr au soufi, au tasawwuf. Comme si que le dhikr, c'est quelque chose qui est propre au soufi. Quand on parle du da'wah, ah, da'wah, ça c'est le travail des jama'at tablir. Quand on parle de la connaissance, ah, ça c'est pour les ulama, ceux qui ont étudié les muftis. Ah bon? Et toi alors, tu es où? Du coup, tu es où? Tu te situes où ça? Le din est accessible à tous. Il n'y a pas une action qui est réservée à une personne. Autrement, on n'aurait même pas le droit de s'asseoir à une assemblée de ilm. Dire que ah non, ça c'est pour les savants. Étudier directement le hadith, ça c'est pas à notre niveau ça. Il faut une préparation aucunement. Talabul ilmi farida, c'est une obligation pour chaque croyant. Une obligation pour tout ce qui te concerne directement. En commentaire, tout ce qui est nécessaire, ce que tu dois savoir, le halal, le haram. Il n'y a aucune action qui est spécifique, réservée. Le dhikrullah doit faire partie de notre vie. Et bien inconscient. Celui qui ne trouve pas l'équilibre entre les ibadah, c'est-à-dire les salats, les prières, le somm, et ainsi de suite, le mon, enfin tout ce genre de ibadah, également les actions en rapport avec les autres, et le dhikr, le ilm, bien sûr, la connaissance religieuse, et le dhikr. Si quelqu'un se consacre l'essentiel de son temps au ilm, imaginez, je suis un étudiant, talib al-ilm al-shari'i, mais je ne fais pas le dhikrullah du tout. Il y a un gros manque en moi. Il y a un manque dans ma spiritualité, il y a un manque dans ma foi, parce que même si on apprend l'apprentissage de la connaissance religieuse, c'est une des meilleures actions, sans le moindre doute. Mais le cœur a besoin d'être ressourcé, et cela transite obligatoirement par le dhikrullah. Hada. Hassan al-Basri, tout le monde connaît Hassan al-Basri. Rahimahullah dit, cherchez la douceur, cherchez l'extase. L'extase, hein? On ne parle pas l'ectasie. Cherchez l'extase. Cherchez le bonheur de la foi, à travers trois actions. C'est-à-dire, dans trois actions, tu dois trouver le kiff spirituel, le bonheur, l'épanouissement spirituel. C'est cet état où on se décompose, cet état où tu sens que tes membres se délâchent complètement. J'étais chez un médecin, mais un professionnel aujourd'hui, il me disait, monsieur Mila, détendez-vous, délâchez tout ça, c'est trop... Diguez pas. Quelqu'un qui va appuyer sur un bouton, il délâche. On est tellement stressé par la vie, depuis que ça commence, on est dans les embouteillages, et ainsi de suite. Subhanallah. Et la vie, elle est tellement compliquée, elle est tellement... Alhamdulillah. Quelqu'un te dit, délâchez votre trapèze. Comment il appelle ça, trapèze? Les épaules délâchées, c'est trop dur, c'est comme du béton. Il dit, mais c'est pas possible, ça. On n'arrive pas. Alors que dans une connexion avec Allah, c'est comme si que tes membres se relâchaient. C'est ton cœur est heureux, il est épanoui et le message traverse tout ton corps. Donc, à travers trois actions, on va compléter, on va conclure avec ça. Hassan al-Basri dit, il disait, cherchez la douceur, cherchez l'extase et le bonheur de la foi. Le bonheur de la foi, hein, pas le bonheur et le plaisir de ce monde. Non, ça n'apporte rien, ça. Ça comprime le cœur. Quand quelqu'un s'adonne au plaisir de ce monde, au début, il y a un goût, il y a un madja. C'est quand on mange un biryani. Même le meilleur des biryani. C'est quoi le meilleur des biryani, Sonny? Pas besoin de faire la pub, hein. Ils sont à la tanière. D'accord. Même le meilleur des biryani. Dites-moi très, très honnêtement. Au bout de, le madja, il est dans est-ce que le madja, il est du début jusqu'à la fin? C'est les premières bouchées qui t'apportent un madja. C'est les premières bouchées qui, dans lesquelles il y a une saveur. Donc, très honnêtement. Quel que soit, enfin, on a pris un exemple un peu réduit, mais quel que soit le plaisir de ce monde, il y a une limite. Prenez l'exemple d'un coureur du pont. Allah nous protège. Un jeune qui est beau, qui est attirant, qui est séduisant, que quand il passe, toutes les femmes tournent la tête, regardent, waouh, ce qui était peut-être le rêve de beaucoup de gens. Ben, s'il sort avec une fille tous les deux jours ou trois jours, il change, comme il change de quoi? Vêtements, allez. Aujourd'hui, il est avec une telle, avec un tel, et c'est que des bombastiques, d'accord? Vous pensez qu'il continue à ressentir ce plaisir à chaque fois? C'est illusoire. Tous les plaisirs de ce monde sont illusoires. Regardez la personne qui est très riche, immensément riche. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir 8 millions d'euros de son compte en banque, quand tu te lèves le matin, tu check ton compte, d'accord? 8 millions. Est-ce que ça t'apporte un bonheur tous les jours du lundi au samedi? Vous allez dire que ça n'apporte pas de malheur non plus. Mais il y a son lot d'épreuves avec. Et il y a son lot de questions là-haut aussi. Qu'Allah nous protège des bienfaits qui nous attirent, qui nous emmènent vers les difficultés de l'au-delà. Et donc, cette personne qui a autant d'argent, pensez que ça lui procure du bonheur. Je donne un autre exemple plus terre à terre. Hein, et je pense, tout le monde a déjà été au Umrah. Fini l'Umrah? Fini? Qu'Allah t'amène, Inch'Allah. Qu'Allah vous amène, ceux qui n'ont pas été. Vous allez au Umrah. Et bon, c'est pas le Umrah l'exemple. Hein. Vous êtes dans un bel hôtel, Hilton, par exemple. Un exemple, hein. 5 étoiles. Ou, hein, parce que tout le monde y va Hayat Regency maintenant. Ça, c'est la grande mode. Très, Inch'Allah. Un 5 étoiles. Le premier jour, Drahman, tu as déjà expérimenté ça. Le premier jour où il y a le petit déjeuner. Le buffet est toujours offert avec la chambre. Un buffet où tu vois le début, tu vois pas la fin. Il y a tout ce que tu peux imaginer en termes de fruits, de salades, de viande, de riz, curry, il y a viennoiserie, il y a gâteau. Je l'ai vécu il y a quelques... Enfin, Allah Azza wa Jalla nous a permis d'aller au Umrah, là, au mois de janvier. Mais le premier jour, c'est waouh, Alice au pays des merveilles. Le deuxième jour, magnifique. Le troisième, après, on est racoulé. Tu es saturé. Combien tu vas manger? Et combien de plaisir tu trouves dans la nourriture? Ça nous montre les limites. C'est-à-dire qu'il est impossible... Le temps est terminé. Il est impossible de manger plus que ça. Il est impossible de réunir plus de variété que ça. Je me suis même retrouvé à manger Khalidi le matin. On a au compte, tellement j'étais en manque d'inspiration. Tout le monde connaît c'est quoi Khalidi? Le foie. Ça, c'est un truc qui est enfin, bien. Du riz Khalidi le grand matin, petit déjeuner. On m'a dit, t'es un problème là. Mais à un moment donné, on est saturé. Le quatrième jour, tu vas au buffet, ou hop, tu as plus envie de manger, quoi que ce soit. Et là, ça te permet de comprendre, à travers un exemple, un vécu basique et simple, les plaisirs de ce monde sont limités. Alors que les plaisirs de l'au-delà sont en permanence en train de s'améliorer et l'homme ne se lasse jamais de l'au-delà. Donc, Hassan al-Basri disait, la douceur et l'extase, le bonheur de la foi, pas le bonheur de ce monde, le bonheur de la foi, à travers trois actions, à travers la prière, à travers la pensée d'Allah, le dhikrullah, et à travers la lecture du Coran. Et on pourrait dire que ce qui va donner, comme on a tout à l'heure, ce qui va te permettre de ressentir ça, ben, commence par la pensée d'Allah, commence par le dhikr régulièrement. On verra inch'Allah la prochaine fois, il y a encore pas mal de choses à voir sur ce point, mais on va essayer de voir des adhkar qui nous seront extrêmement profitables. Et des adhkar qu'on connaît déjà par cœur. à force d'écouter les doigts, et ainsi de suite, on mémorise des adhkars sans réaliser la puissance de ces adhkars. On va essayer de les passer en revue, inshallah, et voir qu'est-ce qu'on peut lire facilement. On a une grande épreuve, mais qu'on peut le transformer en bienfait, ce sont les embouteillages. Dans les embouteillages, profite de ce temps. Quand tu as la route littorale qui est basculée, tu dois faire une heure de temps, la route littorale ou la montagne, ainsi de suite. Fais le dhikrullah pendant une heure. Et subhanallah, le baraka que tu as dans la journée. Et le fait de réaliser l'importance du dhikrullah et l'apport spirituel, ça te permettra de réaliser l'importance du... qui complète... hein? L'importance du temps. Quand tu réalises comment le dhikrullah, ça te... un subhanallah ou tel dhikr, Allah demande aux anges de planter un arbre du Jannah pour toi. Ça veut dire que tu auras ce lopin de terre au moins de le Jannah. Mais là, tu te rends compte que passer tout ce temps à faire des choses inutiles, tu te rends compte que c'est du temps perdu, tu réalises que le temps est, c'est quelque chose d'inestimable. On essaie d'éviter de perdre notre temps. Perdre notre temps devant des choses inutiles, pas trop de temps devant Internet, pas trop de temps devant le foot, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder les matchs. Les Parisiennes jouent quand demain, c'est ce soir. Sans dire que c'est haram, on va parler dans un discours extrême qui va nous bloquer dans la masjid où il n'y a que le ibada et tout. Mais il faut qu'à un moment donné, on réalise l'importance du temps. Et ça, il faut demander tawfiq à Allah Azza wa Jal, qu'Allah donne tawfiq de comprendre l'importance du temps. Parce que ce musulman qui a compris l'importance du temps, chaque seconde, c'est une seconde qui te permet de te rapprocher d'Allah. Soit tu te rapproches de lui, soit tu t'éloignes de lui. Parce que si tu passes ce temps dans l'insouciance, tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal. Et chaque seconde te rapproche de la mort. Donc c'est vraiment la chose qui a le plus de valeur. Qu'Allah nous accepte, nous tous, nous donne la possibilité d'intégrer ces paroles et qu'Allah nous donne la possibilité de provoquer le changement. Parce que le dhikrullah, c'est une action que tu vas t'efforcer de faire. Fais un effort, fais le dhikr, travaille ça. Tu te dis que 10 minutes, je dois le faire. À force de le faire, ça va pénétrer le cœur, inshallah. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati, amma yasifoun, wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.